première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, nulla vivere per niente.
Dimmi.
C'est un art.
Par oui dire. La maladie d'Alzheimer bouleverse bien sûr la vie des personnes atteintes, mais aussi celle de leur entourage. Alors, comment y faire face? Comment l'accompagner? Isabelle Rey tente une réponse avec un documentaire en deux parties qui nous emmène à la maison Vézal. Nous sommes ici chez l'habitant, comme le dit Jean-Claude Desplechin, il est le directeur adjoint de la maison Vézal. Nous ne sommes pas chez le résident, encore moins chez le patient, mais bien chez l'habitant. Voilà qui résume la philosophie de cette maison de repos et de soins du CPAS de la ville de Bruxelles. Elle a été inaugurée en mars 2017 et le premier épisode du côté des familles va suivre une famille de la souffrance à la confiance, de la solitude à la prise en charge, tout en plongeant dans ce monde si particulier des personnes touchées par les dégénérescences cognitives. Un film sur le même sujet a été réalisé par Isabelle Rey, ça s'appelle « Dans leur monde », ce sera diffusé sur La 3 le 19 novembre et sur Arte le 7 décembre.
Ils font déjà les préparations. Moi, j'en fais, mais l'équivalent. Moi, un drôle d'ours, oui. Oh. Ça va. Je croyais que c'était du whisky, mais c'est du bois normal. On doit chercher quoi? Oui, fais ma part, toi. Trois vatabata de bois de zèle. Il y avait une année où j'allais tous les jours. Je ne peux plus. Je veux dire, je n'y suis pas. Je ne suis pas là. Tout ce monde, tout ça, c'est quoi?
Maison Vézal, bonjour.
Pas ici, pas là, où? Premier épisode. Du côté des familles.
Et bonjour.
Donc moi je m'appelle Ursula, je suis la fille de Madame Godoy, qui s'appelle Lily. Et donc on accompagne ma maman depuis 2013, plus ou moins, dans une dégénérescence cognitive. Donc on est en 2025, donc ça fait déjà presque 12 ans en fait.
Vous pouvez venir madame, bonjour, je vous en prie.
Bonjour pour ma soeur Michel.
Oui.
Est-ce que vous savez si elle est dans sa chambre?
Non, vous voulez que je téléphone alors?
Oui, parce que j'ai téléphoné tantôt et ça ne répondait pas.
Et Béatrice, est-ce que Madame Malandro, Michel est dans sa chambre ou elle est dans le salon chez vous? Dans la chambre, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a la sœur, elle vient la voir?
Non, je viens la sortir au moins trois quarts d'heure.
Comment?
Parce que comme elle ne peut pas sortir...
Oui, elles vont sortir, c'est pour voir si elle est bien dans sa chambre. Elle est dans sa chambre? Ok, mais madame va monter.
Ah, bah ça va. Oui, okay.
Oui, 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 c'est ça, oui. Merci.
Et je la sors tout de suite. Hein.
Oui,
elle vient à boire trois quarts d'heure. On va juste ici à côté, hein, la fleur de...
Pas de problème. Elle vous attend.
Voilà, je vous en prie. Allez-y. Voilà, ça c'est le rez-de-chaussée. Comme je vous avais dit, tous les étages se ressemblent. Et donc la seule distinction, c'est ici où il y a le numéro d'étage. Une thématique qui est là, c'est la forêt, avec un côté sensoriel au niveau du toucher.
Ah oui, c'est...
Ouais. Et il y a une petite musique et une odeur. Donc c'est vraiment pour... développé au niveau des sens. Faut savoir aussi que ça a été pensé parce que c'est le goût et l'odorat qui part en premier lieu quand il y a une maladie d'Alzheimer et ou une maladie apparentée. Mm-hmm. Et donc ça c'est vraiment pour stimuler au niveau sensoriel.
D'accord. Voilà. Super.
Le parcours c'est comme lorsqu'on a une fuite d'eau. Et donc ça commence avec une petite goutte, on sait qu'il y a une petite goutte, on nie un peu la goutte, et puis au fur et à mesure, en fait, on se dit « Ah, mais il y a un peu plus d'eau », et puis à un moment donné, en fait, on se retrouve avec inondation. Et donc, et là, selon les capacités de résilience, on réagit différemment, selon les ressources aussi qu'on a à disposition à ce moment-là, en fait. Donc je dirais que vraiment, c'est une énorme fuite d'eau. Et on se retrouve inondé, vraiment.
Ah oui. Je ressors un quart d'heure, 20 minutes, oui, et puis attendez, je reviens.
La porte, c'est mieux, c'est ça.
Je vous inscris, voici, s'il vous plaît.
Voilà, alors il est 11h27,
oui.
Ça va?
Oui, merci.
11h27, et moi je pars. Donc elle revient tout de suite, on va juste à la fleur en papier.
Bonne promenade, voilà.
Donc au tout début, maman, elle allait au cinéma, elle oubliait le film qu'elle allait voir, et puis elle se trompait dans les heures. Et tout le monde un peu faisait comme si c'était pas grave. Et on en rigolait, et on prenait ça avec beaucoup d'humour. Et ma maman, je pense aussi, a masqué aussi la maladie pendant très 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 longtemps. Pendant 7 ans, en fait, on pallie en fait de manière tout à fait organique à la déficience d'un membre de la famille. Et donc sans vraiment identifier la maladie et à quoi on a affaire. Et je pense qu'au début, je crois qu'un petit peu après le Covid, quelqu'un m'aiguille vers Alzheimer Belgique. Et donc moi je commence à voir qu'est-ce que j'ai en face de moi, qu'est-ce que c'est la maladie, quelle partie du cerveau elle touche. Et donc voilà, donc là je dois citer la clinique de la mémoire de Saint-Pierre, docteur Martinet, qui fait un bilan, qui reçoit ma maman. Et donc à ce moment-là, ma maman est super agressive parce qu'évidemment, c'est comme si la coquille casse et on commence à voir la maladie.
Bonjour! Oh, ben il y a du bon. Bonjour.
C'est la petite fille, hein. Tu viens à poser. Je ne vais pas la faire rire, mais je le fais quand même.
À votre santé.
Merci, madame. Allez, à la vôtre, madame.
Ah, tchin-tchin.
Très bien.
Bon appétit.
Au au fur et à mesure, en fait, c'est ça le truc, c'est que la maladie fait qu'on doit pallier au niveau logistique un tas de trucs du quotidien de la personne. Il faut en même temps avoir tout un réseau administratif, donc tout ce qui est assistant social, aide ménagère, donner les clés, payer les titres services, et puis il y a le côté émotionnel, parce que là on est dans le pire du pire de la maladie, c'est-à-dire que ben, donner les médicaments c'est compliqué, elle agressive, saute d'humeur, grande violence, tout à fait autonome, donc ma mère en fait elle prenait son sac à main et elle partait, et donc c'était la retenir. Aussi ce qui a été compliqué à ce moment-là, c'est la honte. Les gens ne voient pas de l'extérieur qu'il y a une maladie cognitive, puisque ça ne se voit pas physiquement. Mais elle fait des sautes d'humeur, elle crie, elle fait des sautes de parano. Les parano, au début, on ne les comprend pas. Alors forcément, comme on est un petit noyau familial, on va défendre notre mère. Donc le chat est là, donc je vais la mais donc la gestion des animaux aussi est un peu compliquée. Par exemple, il y a un chat qu'elle a rendu tout à fait obèse parce qu'en fait, elle lui a donné à manger 36 000 fois par jour. Et ce pauvre chat pèse 12 kilos maintenant. voilà. Donc, on a avancé. Mais comme je disais, c'est vraiment la partie la plus violente. Et surtout parce qu'on a mon père aussi qui est complètement dans le déni. Et puis, on s'isole. On s'isole de nos amis, on s'isole. Mes collègues, ils ont de l'empathie, mais parfois, moi, à 8h30, je me ramassais une torgnole de ma mère. Et puis, j'allais travailler à 9h du matin. Et donc, j'ai vraiment, au niveau du monde professionnel, ça a été très compliqué pour moi. Parce que je me suis sentie énormément incomprise. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le désarroi de la maladie et le temps que la personne qui est malade et les aidants ont pour intégrer les choses, en fait. Et il y a de l'ignorance par rapport à l'impact des dégénérescences cognitives sur les autres. Et donc, dans ce marasme, il y a beaucoup trop de violence. Les gens se tiraillent. Après, l'expérience des uns aide, les associations aident, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a eu une période extrêmement violente parce que la maladie est violente, parce qu'il y a des filtres qui tombent. Mais nous-mêmes, on devient violents aussi. Évidemment, on a eu des attitudes hyper contrariantes. Et puis, en fait, on est ignorant de ce qui se passe. On a peur. On doit trouver des solutions. Et on est complètement lost là-dedans. Et alors, du coup, on est hyper directif. Parce qu'en fait, le fond du truc, c'est qu'on a peur et qu'on n'a personne qui peut nous guider dans une autre peur, qui n'est pas seulement la peur de la maladie, c'est la peur de perdre tout et reconstruire quelque chose d'autre.
Je ne suis pas en accord, mais oui, si on se demande si on n'est pas qu'on est ici ou pas quoi. Là-dessus, c'était très bien, les gens. Il faut passer vraiment chez eux, là. Oui. Et ici, moi, je fais des choses. Les gens qui ne vont pas là, ils ne savent pas mettre ça non plus, les pauvres, sûrement. Oui. Les animaux, les gens, ils sont tous de l'autre côté aussi. Sinon, on ne sait pas continuer tout ça. Mais moi, je n'ai pas encore été voir vraiment. Je ne sais pas si on peut faire ça. Mais c'est pas bien. Il y a des petits animaux ici.
Il faut faire attention. Ou alors, il faut dire comme le docteur. Et bon, c'est mon fils qui m'a dit ça. Tu te dis... J'ai une mère à moi, il faut qu'elle a cela. Alors, et je dis, mais tu dis que des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, je m'en fiche, je vais où je ne veux pas que tu sois. Ah ben, je dis merci. Merci beaucoup pour la communion. Enfin, voilà quoi, des bêtises. Heureusement qu'on ne touche pas à tout ça parce qu'on deviendrait fou. Ben dites donc, ça file vite là, hein, parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai tout de suite vu la nièce, la niaiserie partir, et puis tout d'un coup, j'arrive ici, je vois qu'il fait encore un beau soleil, qu'il fait beau. Alors, je me suis dit, bon, fais ta raison et prends ton cœur. Valait mieux parce que c'était. Je me serais battue avec les vieilles dames et puis avec tout ça, alors non, ça serait pas intéressant du tout. Non. Faut mieux aller tranquillement et faire son travail bien comme il faut. Voilà. C'est bien parce que c'est joli, en plus, le vieux qu'on voit est vert. C'est joli. Avec le crayon qui meurt de chair dessus. Je fais des photos. Ça va pas bien à la tête. Hein.
Donc, grâce aux assistants sociaux, grâce à Martinet, elle nous dit que ce serait bien en fait que maman rentre en centre de jour. Et donc là, on a une chance incroyable parce qu'en fait, on téléphone le 7 septembre et le 14, elle rentre. Quoi. Donc, on rentre dans le centre de jour Sainte-Monique. Et en fait, elle a tout de suite accroché au centre de jour. Il y avait des fois où elle n'avait pas envie d'y aller. Mais les fois où elle y allait, elle se sentait bien. Elle a participé à des activités de manière passive. Mais en fait, un jour, je lui ai demandé. Et puis, elle me dit, mais là, on peut faire ce qu'on veut. On peut être... les autres, ils sont comme moi. Et on peut faire ce qu'on veut. Et l'équipe d'Ergo aussi, là-bas, ils ont été formidables. Quoi. Ils l'ont bien encadré. Etc. Mais à un moment donné aussi, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient offrir à ma maman. Donc il fallait trouver autre chose, en fait. Pour nous, ça a précipité notre décision, en fait. Ça nous a fait un push pour commencer à visiter des lieux. Et ma maman lui a dit qu'on allait vers ça. Donc on a toujours communiqué avec notre maman. On lui a toujours dit chaque étape et ce qui se passait. Et on a trié ses vêtements avec elle à ce moment-là. En préparant aussi la suite. Et ça a été un moment difficile pour mon frère et moi.
Vas-y, je t'en prie.
Merci.
Et voilà le potager. Comme je vous ai dit, c'est la kiné qui gère ça avec, qui fait ça avec certains habitants. Qui sont en capacité de le faire et qui sont demandeurs.
Ça, maman aime beaucoup. Pour les mains dans la terre, ramasser les petites herbes.
Elle a un jardin chez elle ?
Non.
Mais elle vit en partie chez notre beau-père et là, il y a un jardin à la campagne. Okay. Ouais. Et c'est devenu un peu le sens de sa vie. Les animaux et la terre. Donc,
Bah, peut-être que ça la détend,
ouais,
j'imagine.
Oui,
ouais, beaucoup.
Ouais.
Ouais.
Voilà. On va aller voir la cafétéria et la terrasse.
Donc, en 2022, moi je craque. Et donc là, j'ai un arrêt inévitable. Donc c'est vraiment le burn-out, mais c'est l'épuisement aussi du rôle d'accompagnant dans une maladie qui avance. Parce qu'aussi, à ce moment-là, le statut de l'aidant proche n'est pas identifié. Je pense qu'il faut savoir que moi, à ce moment-là aussi, je suis une loque humaine. Je pleure beaucoup, je dors mal. J'arrive plus à donner le change non plus, ni à la personne qui partage ma vie. Mon quotidien, mon chez-moi, complètement à l'abandon. Donc ça, c'est un peu avant l'institutionnalisation. Et puis l'institutionnalisation, on commence à visiter des institutions au cours de juillet-août 2022. Et c'est une démarche qu'on fait seule avec mon frère. Et ce qui est hyper compliqué parce que mon père est en déni de ça. Il n'était pas contraire, mais il n'était pas non plus partie prenante. Donc on avance, on va voir des institutions, on boit beaucoup de café, on visite, on revient, on va boire des cafés, on se dit ah non, ça part, ça non jamais. Donc voilà, et donc... et puis on commence à s'intéresser aux différents projets qu'il y a. Bonjour.
Voilà, donc ça c'est la cafétéria qui est ouverte de 11h à 17h. En tout cas, le comptoir est ouvert jusqu'à 17h, mais vous pouvez rester jusqu'à 19h. Donc voilà.
C'est agréable la pièce.
Ouais. Et là, il y a, j'espère que c'est ouvert. Voilà, il y a la terrasse.
Bonjour. Et c'est une vue impressionnante, hein.
Ouais.
Heureusement, c'est très urbain, mais heureusement, il y a cet endroit-là quand même pour.
Ouais, non, sinon ça aurait été trop.
Enfermé.
Et ça, c'est ici plutôt l'endroit où les gens se retrouvent, on dirait.
Oui, avec les familles,
résidents.
Ouais. Et c'est là où il y a les activités aussi. Donc, on coupe la salle
là.
En deux. Ouais. Et c'est là où il y a le cinéma aussi. Donc, les stores sont fermés. Ouais. Donc, ça fait comme une salle de cinéma. Et donc, oui, on coupe la salle en deux. Et à ce moment-là, on peut délimiter activités. Et de l'autre côté, visite famille, habitants qui veulent aller boire un verre. Donc, voilà.
Puis Vézal, ça nous a beaucoup plu. Parce que c'était non confessionnel, parce qu'il y avait une méthodologie derrière. La méthode Montessori, ça nous plaisait. Ça nous a beaucoup plu aussi, et je pense que ça, c'était aussi respectueux de ma maman. Ma maman a toujours aimé la ville, a toujours adoré traîner en rue, aller au centre-ville. On a piétiné Bruxelles dans tous les sens. Et ce quartier-là, ça lui permettait aussi, ça nous permettait, ça lui permettait de pouvoir marcher, d'aller... dans le quartier et d'être toujours en milieu urbain. Et ça, c'était vraiment très important pour nous parce que c'est important de garder les vieux en ville et que c'est important d'être proche de son médecin, que c'est important de pouvoir prendre les transports en commun. C'est important de voir quand la ville change. Et moi, Vézal, j'aime beaucoup parce que ma maman, en fait, elle a une fenêtre qui donne rue des Alexiens. Et donc, il y a une école, il y a des ambulances. Et quand il y a des manifestations, ça passe devant chez elle. Quand il y a des bus, elle les voit. Parfois, elle croit que c'est nous qui passons dans la rue. Donc, ça la maintient dans quelque chose de ici et maintenant et dans la ville. Et donc, ça, c'est formidable quoi, d'avoir un projet comme ça.
Voilà.
Un grand merci. C'est... ça fait du bien qu'il n'y ait plus cet aspect tellement hospitalier. Quelque chose de très, très doux, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de très, très doux. Mais j'avais ressenti ça aussi au jardin de la mémoire avec ma belle-mère par rapport à d'autres endroits où c'était justement très, très violent. Le personnel, les résidents, etc. Et ici, on sent quelque chose de plus doux.
Oui, de fluide.
Mais le souci, c'est que il y a... C'est pas un souci, mais ça commence à... Les gens commencent à être formés, en fait. Je dis pas ici, mais dans d'autres structures. Et donc, ça commence tout doucement. Et il y a une obligation, par exemple, d'avoir des référents démence dans toutes les maisons de repos. Et donc ça commence à bouger. Mmh. Ça commence clairement à bouger. Yeah. Et donc, voilà.
Mais tant mieux. Très bien. Un grand merci.
Avec plaisir.
Mais on verra avec vous, alors comme on vous l'a dit, on voit d'autres endroits et puis...
Tenez-moi au courant et puis choisissez la meilleure solution pour...
La moins pire.
La moins pire.
Mais c'est un peu comme ça, oui.
Ouais, pour votre maman.
Ouais. Ouais. Très bien.
Ouais.
Un grand merci.
Merci.
Avec plaisir.
Il y a du monde qui vous attend, je crois.
Ouais.
Il y a déjà trois rendez-vous.
Oui, j'ai encore une visite après, à 17h.
Et comment ça se passe quand justement il y a des visites avec les, des gens qui vont devenir résidents, etc. Ça vous arrive souvent et c'est...
C'est fluctuant. Là, en ce moment, il y a beaucoup de demandes. Il y a des moments où il n'y a pas ou moins de demandes. Et j'ai l'impression que c'est par période aussi. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui se passe le mot et ils arrivent tous d'un coup.
C'est par vague.
Il y a vraiment par vague.
Vous avez de la place actuellement?
Oui, on a de la place.
D'accord. Ouais. Et c'est une bonne question.
Oui. Même si ça évolue, hein. Ça peut être maintenant il y a de la place et dans un mois il n'y en a plus. Hein, mais
dans un mois il y aura de la place.
Ouais. Donc, ouais. De toute façon, ça sera pas.
Bonjour.
Oui.
Il y a un café derrière.
C'est ici, au 7e.
Non, c'est pour un ou c'est au 7e. Hein.
Oui.
Ça, c'est un café derrière.
Oui.
Donc mon papa est mort en janvier 2023. Il est tombé un jour avant que ma maman rentre à Wesel. Pour lui, ben, c'était très compliqué de vivre sans sa femme parce qu'en fait, ils avaient passé 67 ans de vie commune et de ne pas pouvoir appréhender la maladie et de devoir vivre à 86 ans seul, je pense que ça a été trop compliqué. Et il est bêtement tombé en allant faire pipi et il n'y avait pas de garde-corps et il s'est cassé le col du fémur, chute classique. Mais en fait, moralement, il était déjà... ça tournait beaucoup dans sa tête. Et donc, en fait, mon père, il est décédé d'aucune cause clinique. On a dû demander des explications et on a demandé une autopsie. Donc, en fait, il est décédé d'un trop-plein de stress. En gros, c'est ce qu'ils expliquent. Donc, c'est à un moment donné, le corps, il ne sait plus s'adapter et il ne sait pas se reposer suffisamment pour pouvoir... Et donc, en fait, il a lâché les amarres. Et comment expliquer? Les conséquences du stress sur les corps, ça a un impact gigantesque. Ma maman, elle avance avec sa maladie, mais en fait, on se retrouve tous avec des séquelles. Donc, mon père, il est décédé. Moi, j'ai été encadrée, mais bon, voilà, je travaille à 60%, et donc il y a toujours un résidu. Et mon frère, il a deux grosses maladies chroniques à surveiller à la loupe, quoi. Donc, personne ne sort indemne d'un truc pareil.
Sa vivacité.
Voilà.
Et ça se voit, hein, parce que regarde, mais je ne veux pas, hein.
C'est bien,
tu veux
hein.
Pas quoi?
Rien.
Rien.
T'as vu la vue?
Papa, t'as vu la vue?
La vue, elle est chouette.
Hein. Elle est vraiment bien. Hein. Et vous vous plaisez bien ici, ça va?
Oui.
Ça va, vous vous habituez?
Moi, j'ai vécu 25 ans à Bruxelles et après j'ai...
Ah, je pensais que vous aviez habité en Wallonie et tout.
J'ai habité après en Wallonie jusqu'au mois d'août.
Oh, ça fait pas longtemps que vous êtes ici à Wesel.
Depuis le mois d'août, j'ai d'abord été à Pacheco.
Ah ouais.
Mais je préfère ici.
Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est bien.
Et à Pacheco, j'étais en psychogériatrie, c'est pas du
gâteau. C'était pas bien. Ben, papa, ça fait depuis le mois de juin qu'il est ici. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Parce qu'il peut voyager comme il veut, ils font des activités.
Et on a des sorties à l'extérieur,
oui,
si
oui,
c'est marché.
Et puis bon, il y a toute l'infrastructure. S'il a envie de monter ici, il peut. Il n'est pas enfermé dans un étage. Ça, c'est bien. C'est important.
Ah oui. Tu es une de mes filles?
Ben oui, je suis ta dernière fille.
Ah, sur combien d'enfants?
Il a trois enfants.
Ah,
trois enfants.
Ben, t'es au tout. Oui. Alors, je dois... faire s'il faut, hein. Je suis un peu...
Mais non, pas du tout.
Monsieur, madame.
Mais non, papa.
Ah, oui.
Ouais, mon petit papa, on va y aller.
C'était bien aujourd'hui, non? J'étais amusant.
Allez, madame, au revoir. Au revoir.
Après, parfois, on oublie qu'on est, que les dégénérescences cognitives, c'est de la psychiatrie aussi. Et donc, ce mot, il est parfois un peu tabou aussi. Et certains aides-soignants le mentionnent. Et ça, c'est pas mal aussi de mentionner qu'on est en psychiatrie. Et donc, effectivement, il y a des patients qui vont mettre des tartines entre deux livres ou entre deux magazines. Moi, maman, elle a une obsession avec le papier toilette. Dès qu'elle rentre quelque part, il faut qu'elle prenne tout le papier toilette. Ben, notre seuil et notre vision des choses, elles changent aussi. Notre perception, elle est moins jugeante, elle est moins... Il y a des trucs qui sont pas graves, quoi. Voilà, si ma mère, elle met une chaussure et puis l'autre chaussure, et qu'elle sait pas les mêmes chaussures et qu'elle est bien dedans, ben c'est pas grave, en fait. Et je pense que ça a une influence aussi dans le monde de la vie active. Moi, il y a des choses qui ont beaucoup moins d'importance qu'il y a 5 ans. Et parfois, on rigole parce qu'il y en a deux qui se sont échappés, qui ont été se balader toutes seules, grand place. Enfin, elles se sont fait rattraper, quoi. Mais moi, je trouve ça trop génial, quoi. Ben, elles sont sorties, elles sont bien baladées. Et en fait, je trouve que les habitants, ils sont vraiment rock'n'roll. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a une tolérance aussi à la folie, ce qu'on appelle la folie. Et finalement, la folie, bah, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est ça, quoi.
On va sortir une ou deux photos.
Ah oui.
Oh là, c'est trop. Je pourrais pas lire tout ça.
Hein. Bah, il y a rien.
Et là, c'est... Elle va...
Vraiment, il n'y a rien à lire.
Et si, il y a des choses à lire là-dessus. Il y a tous les territoires qui sont marqués dessus. Et regarde, tu vois bien?
Oui.
Et alors, on les regarde ou on ne les regarde pas. Hein. Mais ceux qui veulent vraiment les regarder, il faut du...
Ah, regarde, c'est toi et papa.
Ah, ben tu vois?
C'est là,
regardez, c'est là. Regardez, messieurs, dames, le vrai pomponnier.
C'est même sur cette terrasse.
Regardez bien.
C'est cette terrasse, là.
Regardez bien.
Ah bah oui, en effet, oui.
Ouais, ouais. Il n'y en a pas d'autres, mais quand même un juste jeu.
Là que sur cette photo.
Tu vois, tu as l'air plus en forme aujourd'hui que sur la photo.
Ben c'est pour ça qu'elle est toujours là. Parce que tous les gens qui veulent la regarder, ils aiment bien voir cette photo. Parce que...
Oui, mais t'es mieux là, maintenant, que sur la photo.
Eh bien, forcément, mais c'est vrai, je le sais. Alors maintenant je vais plutôt ailleurs où il n'y a pas de cette photo-là, que j'aime pas trop, quand même. Voilà. Je l'aime parce qu'elle est propre, mais j'aime pas ça autrement, comme espèce.
Non,
encore une maladie.
Mais enfin, bon, ouais, bah, on fait avec ce qu'on a, hein. On peut pas faire mieux. Tiens, il y a un grand-père, là, qui vient. Oui. Un grand-père qui... Je sais pas si c'est ouais, papa,
c'était quelqu'un qui habite ici aussi, comme toi.
Une rosette, peut-être. Ouais. Ah ben, pourquoi pas.
Non, mais c'est monsieur... quelqu'un qui habite ici, comme toi.
Oui, ben, André. André
ça, je sais pas comment il s'appelle.
Mais... Eh ben, il s'appelait monsieur André Bessix Angoulême. Alors là, c'est juste. Hein?
Ben oui.
J'ai trop fait de faux. Ah, c'est quelque chose, hein.
Ben là, en tout cas, tu as l'air plus réveillée que tout à l'heure.
J'étais libérée à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais ça ne fait rien. Mmh. Et puis après, j'ai compris quand même qu'il fallait que je revienne en arrière, que ça avait été trop loin.
Moi, je me rends compte que y a une vie dans l'institution. La personne, elle n'est pas morte du tout. En tout cas, ma maman, elle a une nouvelle vie. Elle vient d'avoir 89 ans. Et elle s'adapte. Et nous, on commence un peu à lâcher prise sur certaines choses, quoi. Mais je pense qu'on a passé quand même, peut-être aussi c'est notre histoire, on a passé 2 années hyper sur le contrôle. Le contrôle de si tout va bien, hein, si tout... Maintenant, il y a des trucs sur lesquels on lâche prise. Mais je ne pensais pas à l'époque, en tous les cas, en 2020, ni en 2022, qu'il y allait avoir quelque chose après, enfin que la maison de soins... C'était un pan de vie aussi, en fait. Un pan de vie pour l'habitant, mais aussi pour mon frère et moi, en fait. La maison de soins nous donne quand même une certaine sécurité, une certaine sérénité, un espace plus calme. Et puis ma maman aussi, elle se retrouve Elle se sent en sécurité et nous aussi, on se sent en sécurité. Je pense que de ne pas être tout le temps sur moi, ma maman, ça lui fait du bien. Et parfois, elle dit, quand elle veut qu'on parte, elle dit, oui, moi, je vais bientôt rentrer chez moi. Hein. Et puis, en fait, nous, on sait que c'est le signal que nous, on doit rentrer chez nous, en fait. Et donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, c'est à un moment donné, laisser que les choses se passent, en tout cas, le quotidien.
Bonjour, bienvenue à tous. Donc, bienvenue à nos nouvelles familles. Donc, vous êtes tous présents pour le conseil participatif du mois de mars. On va commencer par les points critiques en cuisine et je vais céder la parole à Juliette Hélène qui est notre responsable de l'équipe logistique.
Bonjour à tous et à toutes. Ce qui est très important avec le projet de vie de la maison, c'est de respecter le choix de son proche et pour le personnel, de respecter le choix de l'habitant. Donc au moment du petit déjeuner, du souper, on laisse libre choix aux habitants. Est-ce que vous voulez du pain blanc, du pain gris, du fromage, de la confiture ? On laisse aussi le choix à l'habitant soit de ne pas vouloir manger, soit de ne pas vouloir manger à ce moment-là ou pas à cet endroit-là. Il y a des habitants qui viennent prendre leur repas à la cafétéria, qu'ils le prennent une heure ou deux après le repas. Donc ça aussi, on respecte le rythme de l'habitant à ce moment-là.
Ben, une fois que la personne est institutionnalisée, on reste vigilant à l'habitant et c'est pas qu'on dit au revoir et merci. Pas du tout, en fait.
Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ?
Moi, j'ai une question de fond, en fait, à poser, qui concerne, en fait, la méthode Montessori et le soin. Et donc, je voudrais savoir, lorsqu'il y a une personne, par exemple, qui tombe, comment le personnel soignant privilégie le soin ou la méthode Montessori.
Vous voulez dire quand la personne essaye de se relever ?
Par exemple. Mm-hmm. Et donc, jusqu'où va la méthode Montessori par rapport aux soins ?
J'ai envie de dire que ça va dépendre de la situation et de chaque habitant. Et elle sera différente pour chacun. Et on va aussi, évidemment, évaluer l'urgence de la situation.
Il n'y a pas de réponse binaire de choix entre et la méthode Montessori et le soin. Montessori est un soin. Le soin, faire du soin, ça peut être faire du Montessori. Donc je dirais que s'il y a une chute, il y a souvent du bon sens d'aider la personne qui a chuté.
Mais s'il y a par exemple d'autres soins qui doivent être prodigués et qui ne sont pas visibles,
comme par exemple, je réfléchis...
Mettre de la crème sur le corps, on prévient aussi. Mettre de la crème sur le corps, la personne veut pas. Non, je veux pas qu'on le touche. Mais par contre, il faut, parce qu'il y a une démangeaison qui est en cours ou un problème. Qu'est-ce qu'on fait ?
J'ai l'impression que dans votre question, il y a la réponse.
Dis-moi.
Il faut, et dans son plan de soins, il faut mettre de la crème. Donc on fera le maximum pour que ce soin puisse avoir lieu parce que ça répond aussi au bien-être de la personne. Et en même temps, si on peut y associer une démarche de type Montessori, on le fera. Mais encore une fois, c'est le bien-être de la personne. Et si elle a besoin d'un soin, le soin doit être fait. Ça ne se pose pas en termes, encore une fois, de choix entre l'un et l'autre. Les deux sont intimement liés. Donc je pense que c'est en tout cas un message à faire passer, c'est que la méthode Montessori, on parle des soins, mais ça se traduit dans les repas, ça se traduit dans les animations. Ce n'est pas un choix de dire on fait l'un ou l'autre. Ça se distille dans tout l'accompagnement du quotidien.
On est quand même dans une maison de soins sur la méthode Montessori. Donc c'est important en fait de rappeler le soin et que le soin doit être prodigué pour moi en priorité de la manière la plus Montessori possible.
Mais il n'y a pas de formule magique, ce serait facile, on reste des êtres humains et donc au quotidien ben on progresse, on fait de mieux en mieux et certainement avec la collaboration de familles qui permettent d'enrichir la manière d'approcher au mieux leurs proches. Donc, je pense qu'on se rejoint énormément.
Mais faire confiance, c'est un apprentissage aussi.
Ouais. Mais moi, en fait, nous, on a été hyper critiques parce qu'on est... d'ailleurs, on en rigolait avec mon frère. On dit, ouais, non, on va pas tout leur dire parce que sinon, ça va faire vraiment audit. Mais dans l'ensemble, le personnel, ils ont tous des atouts. Et je pense que cette vision de l'être humain un peu plus humaniste, en fait, moi, en tous les cas, je l'ai acquise avec Vézal aussi, en me disant, bah oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des gens qui vont être super doués pour tel truc et vont pas être doués pour autre chose. Mais c'est pas grave, en fait. Et ça donne une vision aussi du travail beaucoup plus, plus noble, je pense. C'est donner les lettres de noblesse aussi à plutôt un système et à une équipe, en fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Non. Et alors, je profite aussi de l'occasion. Demain, on va fêter les 7 ans d'existence de la Maison Vézal. Donc, on a déménagé il y a 7 ans, entre le 15 et le 17 mars, de Pacheco jusque dans les locaux ici. Voilà.
Joyeux anniversaire, Vézal.
Merci. Nos prochaines réunions auront lieu le jeudi 27 juin, le jeudi 26 septembre et le jeudi 19 décembre. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.
Au troisième étage.
Moi, je voulais revenir aussi sur le fait que les enfants de parents aussi, ou le parent ne perd en capacité cognitive, on est toujours en demande de quelque chose. En termes psy, ils appellent ça l'incomplétude de la relation. Parce qu'en fait, la relation parent-enfant, elle n'existe plus. C'est autre chose, en fait, qui se joue là. C'est le fameux deuil blanc. Et effectivement, moi, ma maman, ma mère, elle m'a soutenue pour plein de trucs, quoi. Je faisais mes vêtements, venez ouvrir la porte. Enfin, c'est plein de trucs pour moi. C'est fini. C'est une autre relation. C'est une autre relation. Mais celle-là, elle est finie. Elle est finie et tout ce qu'ils nous ont accompagnés, c'est terminé. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, il faut faire avec, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi un nouveau rôle, c'est accompagner et ne plus être dans les attentes de quelque chose. Et je pense que moi, quand je vais à Vézal et que je vois les autres comme moi, les autres aidants, ils sont tous dans le même. Je crois qu'on fait un chemin ensemble, en fait, un chemin qui est en fait de laisser notre parent et de accompagner une personne malade. Et c'est autre chose. Mais ça prend du temps. Et pour, en tout cas, pour moi, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans pour dire ok. Alors, de temps en temps, il y a des trucs qui me raccrochent à ma maman, mais en tous les cas, je peux plus attendre quelque chose de ma maman, de ce qu'elle me donnait. Et on est, je pense que c'est quelque chose de hyper dur, en fait. Parce que finalement, moi, mon père, quand il est mort, ben, tout ce que je pouvais attendre de la relation est mort avec lui. Tandis qu'avec ma mère, il y a encore des... Parfois, c'est comme... quand j'arrive, elle me dit toujours « Ah, mais c'est joli, t'as des nouveaux vêtements. Ah !» Parce que ma mère adore les vêtements et adore les chaussures. Elle me dit « Ah, et tes chaussures, tu les as achetées où ?» Je dis « Ah, ben, au même endroit où on achetait les chaussures. » Et puis alors, du coup, on se raccorde à ça. Mais en fait, c'est plus que des fils C'est comme un tissage ou un pull qui s'est effiloché et puis il ne reste plus que des fils, en fait. Mais ces fils sont précieux parce qu'on se dit « Ah, mais c'est quand même de la bonne laine !» Et donc, c'est un peu ça, en fait, l'image. Mais ça reste de la qualité, mais c'est plus le... On ne sait plus utiliser, on ne sait plus... Voilà, la relation, elle a évolué. Et donc, c'est très difficile de dire ça.
C'est votre couleur.
Allez, bonjour papa.
Tiens.
Tu n'as pas tes lunettes, c'est ça le problème.
Bonjour papa, bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire. Oui, t'avais dit, midi, on va aller manger des moules pour fêter ça.
Mais il faut s'habiller, viens,
on va aller. Il faut s'habiller. Allez.
Bonne fête.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Pour mon frère et moi, ça a été difficile aussi. On était beaucoup dans les souvenirs. Et en fait, la maladie, on est dans l'instant présent. Et si elle a froid, ben c'est un pull et c'est maintenant. Et c'est pas... mon pull, ben tiens, on me l'a offert à tel cadeau, à tel anniversaire. En fait, on s'en fout complètement. Et donc, on est vraiment dans des sensations et dans des ici et maintenant. Et ça, c'est... c'est une bonne leçon, mais en même temps, c'est difficile. C'est difficile d'être dans ça. Et puis moi, parfois, je me pose la question. Je me dis, quand elle n'est plus là, comment je vais traiter le souvenir, en fait? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est quelque chose... donc, on est vraiment... La maladie, elle nous oblige à être dans l'instant présent, en fait. C'est troublant, ouais.
Pas ici, pas là.
On a moins de monde sur notre dos.
Réalisation, prise de son, entretien et montage, Isabelle Ray. Prise de son, Hélène Claire Denisot. Montage et son additionnel, Paola Steven. Mixage, Quentin Jacques. Merci à Ursula Adelsdorfer. Merci aux habitantes et habitants de la maison Vézal, à leurs familles, aux visiteurs et visiteuses. Merci à toute l'équipe de la maison Vézal et à son comité de direction. Merci au CPAS de la ville de Bruxelles.
Elle fait son ménage. Elle fait son ménage. Ben c'est bien comme ça. Elle sait ce qu'elle fait.
Jacqueline.
Oui, monsieur.
Est-ce qu'on retourne au cinquième étage, à ton étage?
Faut absolument y aller.
Bon, disons qu'ils vont fermer ici. Donc oui.
Si c'est que pour faire l'été, j'y vais. Mais autrement, si
c'est pour ça.
Allez-y, monsieur.
On y va ensemble.
Allez, on y va ensemble. Ben oui. Vous avez raison. Bon, comme ça, tout de même, même les femmes seront sûres d'être interrogées.
Une production Spastic ASBL.
Et là, tu vois, il y a monsieur là-bas, on lui demande. Monsieur Connet.
Coproduction Thank You et Good Night. Ouria SBL et Deux Temps, Trois Mouvements. Avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et on écoute Le corps des vieux pour compléter cette émission. C'est une fiction sur la vieillesse où une jeune femme va de maison en maison. Elle fait le ménage, elle donne les repas, elle fait les toilettes. Et à travers une galerie de portraits se déploie le monde multiple et invisible de celles et ceux qui vieillissent dans la solitude. Le texte est signé Anne Oranda, Rugonindon. La réalisation, la prise de son est de Léonie Tosi.
Le corps des vieux. Un texte d'Anuradha Raghunandan. Je vais parler du corps des vieux. Des très vieux. Du corps des vieilles. Très, très, très vieilles. Leurs os sentent la pluie qui arrive, le temps qui tourne. Quand ils parlent météo, c'est des os dont ils parlent. Leur peau se tend sur l'os du tibia, se tend sur le crâne, de la nuque jusqu'au nez. La peau se froisse entre le coude et le poignet, entre les doigts. Les paupières se sont absorbées et les yeux dépassent des orbites. La chair, tantôt se ravale, tantôt déborde. La matière ne remplit plus la silhouette comme avant. Ils vivent au rez-de-chaussée. Les étages ont les volets clos. On a aménagé leur dernière chambre dans une cuisine ou dans un débarras. On y a mis un lit étroit comme un lit d'enfant, mais un lit qui coûte cher. Un lit avec rambarde et dossier qui se lève. Sur la table, les couches, les jus protéinés, le classeur où les infirmières notent la qualité des selles. Au frigidaire, la soupe industrielle. Les vieux gardent auprès d'eux le téléphone, mais souvent quand ça sonne, c'est la publicité. Ils lisent dans le journal la rubrique funéraire. La télé piaille. Tromper le silence. Je rentre, émue et épuisée de les avoir lavés. De les avoir nourris. Et d'avoir écouté, passant la serpillière, les histoires qu'ils répètent, les plaintes sur les enfants, les plaintes sur les voisins, la douleur de leur corps, la télé qu'ils regardent mais qu'ils n'écoutent pas, émus d'avoir écouté, avec eux, le silence. Le soir, je m'endors auprès d'un garçon nu. Il a un corps compact qui grimpe sur la montagne. On se blottit l'un contre l'autre dans le lit de sa caravane. J'écoute la pluie tomber sur le toit de plastique. Au matin, il prépare le café. Et j'y vais. Solange la forge. Quand je la vis nue pour la première fois, son échine me retourna le bide. Courbe et immense, saillée en quart de cercle de la tête à l'assise comme pour s'extraire du corps. Un dos de reptile. Dos de dinosaure. Solange, élégante. Ses veines sont bleues à la tempe et aux poignets. Assortie au gilet. Elles forment un faisceau, un réseau de corail mis à plat sous la peau. Ses veines semblent sortir du cou. Où est-ce la peau qui disparaît? Le corps s'enfonce dans un sang qui ne circule plus. Madame Besançon, les pieds enflés, tendus comme gonflés d'eau, rouge-violet. Et les orteils soudés comme déjà une pierre fossile. Jacques Duchaud, c'est les mains. Violacées, presque bleues, remplies d'eau, énormes, des mains à deux doigts d'exploser. Ce sont des mains qui ne peuvent plus saisir, ne tiennent plus que son pantalon. Jacques Duchaud ne peut pas refermer sa braguette. Il refuse mon aide pour l'habiller. Il dit « Et si je veux pisser quand vous n'êtes pas là, je fais comment, dites-moi » Je les lave, les nourris et je fais leur marché.
Par Ouï Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première
et quand vous voulez sur Ovio.